Voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Jean Starobinski, récemment disparu. Le théoricien de la littérature s'entretenait en 1999 avec Gérard Massé. Ce soir, l'ironie philosophique.
L'un des grands plaisirs qu'on a en ouvrant vos livres, Jean Starobinski, c'est qu'avant même de vous lire, très souvent, on voit des images. Je rappellerai pour mémoire au moins l'invention de la liberté, les emblèmes de la raison, le portrait d'artiste en saltimbanque qui était chez Skira dans la collection Les Sentiers de la Création de Gaëtan Picon. Et il semble donc que l'iconographie joue un rôle très important, peut-être même que c'est une sorte d'équivalent de la citation. Cette iconographie est extrêmement riche, elle a presque toujours valeur d'exemple, elle n'est pas forcément liée, me semble-t-il, à vos goûts en peinture. D'autre part, il n'y a pas que la peinture qui intervienne, puisque il y a aussi le dessin, mais c'est presque la même chose, mais aussi l'architecture, des images théâtrales. Est-ce que dès le début vous avez pensé à ce rôle fondamental de l'image, parce que ça n'est pas seulement un rôle auxiliaire, ou est-ce que même là, il y a quelque chose de l'ordre du regard qui est si important chez vous, et vous en parlez d'ailleurs aussi à propos de Rousseau, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du regard qui est un moyen de connaissance?
Vous définissez bien ma problématique, comme on aime à dire aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Dès le départ, mes préoccupations dont nous avons parlé précédemment, la descente aux enfers ou le masque, il y avait des images qui escortaient ce projet. Sans que je pense à des œuvres précises, sans que j'ai fait élection de figures à interpréter. Mais l'appel d'image était présent. L'élément visuel était là. Peut-être mon goût des masques est-il une compensation de ma terreur des masques quand j'avais 4 ans, car Genève connaît une fête masquée qui était traditionnelle, la fête de l'escalade. C'est la commémoration d'une victoire sur les Savoyards le 11-12 décembre, mais en réalité c'est bien l'équivalent d'une entrée des spectres. C'est une sorte de Halloween genevois, ah oui. fête nationale, mais fête des spectres en hiver. Et les masques m'effrayaient. Donc ce saisissement visuel du petit enfant devant les masques grimaçants a peut-être été, je ne sais où, en moi-même, déterminant.
Et est-ce que vous aviez rêvé devant des livres illustrés quand vous étiez enfant ?
Aussi, bien sûr. Oui. Les contes d'Anderson illustrés, c'est quelque chose d'effrayant. Là. L'apparition de la mort, la petite fille aux allumettes. Ces livres illustrés sont très déterminants pour beaucoup de fantasmes et de terreurs.
Mais quand vous parlez des images, immédiatement, ce qui vous vient, c'est plutôt la peur.
Beaucoup la peur, oui, et aussi la séduction. Donc il y a toujours une dialectique de l'un de l'autre. La séduction compense la peur, l'attrait de certains lointains, quelques couchers de soleil ou paysages idylliques sont présents très tôt dans les vieux livres d'enfants. Donc les deux sont présents.
Et alors comment est-ce que vous avez été amené à faire des livres avec cette iconographie si riche? Ce sont des rencontres éditoriales? Est-ce que Albert Skira, par exemple,
a joué un grand rôle. Oui. Oh, oui, il a joué un grand rôle. D'abord en transportant à Genève l'équivalent de son Minotaure d'avant-guerre et en le transformant en un journal qui s'est appelé Labyrinthe. Je n'ai écrit qu'un petit essai sur la préciosité dans Labyrinthe en 1944 ou 45. C'était une défense et illustration de la préciosité et il n'y avait pas d'image. Mais dans le bureau de Skira, on rencontrait Giacometti, on rencontrait Balthus, On parlait d'image, ouais. On parlait de l'illustration de, on parlait de l'illustration de labyrinthe. Lorsque j'étais collégien, je passais mes récréations qui étaient libres, pas dans un préau, à descendre à la bibliothèque du musée où je regardais Minotaure, les photos de Brassailly, tout ce qu'apportait Minotaure, Picasso et tout un ensemble d'images. Donc j'ai rêvé sur des images. Après celle des livres d'enfants, il y a eu Minotaure et puis Labyrinthe comme une tentation proche. Mais finalement, mes livres illustrés sur le XVIIIe siècle ont été précédés par les études sur Rousseau. Skira voulait faire un livre qui ne soit pas un livre pour les « coffee tables », comme il disait, et qui la série s'intitulait « Art, idées, histoire ». Et cette série dont s'occupait Robert Delvoye était faite pour m'intéresser le XVIIIe siècle, tout en travaillant sur la marche des idées, sur l'idée de l'instant sensible, puis vers la fin du siècle, de la volonté telle qu'elle s'exprime dans Les Liaisons dangereuses et puis dans bien d'autres textes. Ça me semblait appeler les images de l'architecture, les images des jardins, et j'y suis resté très attaché. J'ai fait à ce moment-là une sorte de ronde d'exploration parmi les grands artistes du XVIIIe siècle.
Mais est-ce que vous écrivez d'abord et puis vous cherchez les images ensuite, ou est-ce que tout cela est un même mouvement, ou est-ce qu'il vous est arrivé au contraire d'être séduit par une image et d'écrire à partir de là? Comment est-ce que ça se passe? Sûrement jamais de la même façon.
En effet, il y a un va-et-vient. Il y a un va-et-vient. Si je m'occupe encore aujourd'hui d'images, c'est que me souvenant de visites au Prado ou de l'émotion devant les tableaux du Prado, je me suis intéressé à une filiation à la fois de thèmes littéraires et d'images, parce que l'image est elle-même la répercussion d'un texte littéraire. On s'est avisé que la fête de Vénus du Prado était la réalisation d'un programme proposé par Philostrate, les amours rendant hommage à Vénus. Et du coup, quelque chose qui me venait de Baudelaire, la passante avec sa jambe de statue, ou de Verlaine, son regard est pareil au regard des statues, je me suis laissé tenter, séduire, par le motif du regard des statues et de Titien, la fête de Vénus, à Watteau, à travers Rubens. C'est toute la tradition des fêtes galantes que j'ai vue se dessiner devant moi. De sorte que, si en réalisant ce travail, qui est déjà en partie réalisé, sur le regard des statues, l'on passera de Philostrate à Titien, de Titien à Rubens et à Watteau, mais ce monde de Watteau trouvera son élégie funèbre chez Verlaine, et le regard des statues aura ainsi parcouru tout un espace, à la fois de littérature et d'image.
Est-ce qui se joue pour vous dans ce regard des statues, est-ce que ça n'est pas le rapport de l'inanimé et de l'animé ?
Certainement.
Parce qu'au fond, c'est
certainement.
Le regard, c'est ce qui vient animer la statue.
Certainement, certainement. Et un des points de repère importants pour moi, ce sont les ébauches de Chénier, le jeune homme amoureux d'une statue, qui éperdument amoureux d'une statue, n'arrive pas à la conduire à la vie, mais il y a aussi le groupe de marbre où une jeune fille amoureuse d'une statue devient marbre elle-même. Donc le passage de l'animé à l'inanimé est important dans cette imagination de Chénier.
Oui, on trouvera ça dans le baroque aussi, dans les statues du Bernin que vous connaissez bien, dans les métamorphoses. Bien. Mais je reviens tout de même encore une fois au rôle de l'observation clinique. Il me semble que on ne peut pas avoir une vocation médicale sans que le regard y soit pour beaucoup. Or, je me souviens que peut-être par le premier livre illustré, parce que je n'ai pas la chronologie précise dans la tête, mais l'un de vos premiers livres tout de même, qui ne figure pas toujours dans vos bibliographies, mais vous ne le reniez sans doute pas. C'est une histoire de la médecine, dont l'iconographie est remarquable, et elle est d'ailleurs de Nicolas Bouvier.
De Nicolas Bouvier, hein, oui.
J'ai vu ça à la fin du volume, et j'ai lu ou entendu quelque part récemment que vous aviez, avant sa disparition, un autre projet avec lui, peut-être pour refaire le même livre ou autre chose. Et quel iconographe était Nicolas Bouvier, ou plutôt, qui était-il? Parce qu'on le connaît à travers L'usage du monde, bien sûr, ses autres livres. Il est presque le contraire de vous, parce qu'il a parcouru la planète alors que vous êtes resté à Genève. Comment est-ce que ça se passait entre vous?
Ça se passait le mieux du monde. Bouvier était un merveilleux conteur, et d'autre part, fils du directeur de la bibliothèque de Genève, un explorateur de livres. Et il y avait de sa part aussi une exploration, un voyage, un perpétuel voyage dans les bibliothèques et dans les images. Si bien que notre amitié reposait d'une part sur ce qu'il rapportait des lointains et sur ce que je pouvais parfois lui apporter en mentionnant des livres où il allait trouver des images du corps. Notre projet commun était de faire un livre sur les images du corps. Je me réservais la part difficile à représenter en images, et qui est les sensations internes. Mais il avait récolté beaucoup de documents qui vont être exposés prochainement à Lausanne, et qui vont peut-être donner lieu à un livre composite où j'écrirai quelques pages. En fait, Bouvier était plus jeune que moi, il était un peu mon premier élève quand j'ai été assistant de Marcel Raymond en 47, oui. 48. Et il a fait du droit, mais il est parti le jour de sa licence en droit. Le voyage vers l'Orient a eu lieu à ce moment-là. Et en fait, l'histoire de la médecine, ce sont des documents fournis par Nicolas Bouvier. Je ne crois pas qu'il soit responsable de la conception du livre et de la mise en page. Non, il n'en était pas satisfait.
Une collection un peu toute faite.
Oui, une collection toute faite par un maquettiste. Ça a été une sorte d'aventure éditoriale très lucrative pour ceux qui l'avaient entreprise. Les livres étaient traduits en 15 langues. Les auteurs n'en savaient rien. Ils étaient payés au forfait. Ce sont de ces procédés d'éditeurs qui sont comme ça. C'était dans les années 60. On s'était dit que c'était un coup à refaire avec une concertation plus étroite entre nous.
C'est ça, voilà. Oui, c'est ce projet que j'ai eu vent, dont j'ai eu vent. Mais alors, dans les autres livres, je pense surtout donc à l'invention de la liberté et aux emblèmes de la raison, là, l'iconographie est la vôtre.
Oui, oui. Et sur proposition de Skira. Il faut faire ici l'éloge de Skira, car...
Skira, c'est pour l'invention de la liberté, parce que les emblèmes de la raison, c'est Flammarion.
C'est Flammarion, oui. C'était un éditeur italien, Pittaluga, qui, finalement, les choses ont abouti à Flammarion, après beaucoup de retard et de délai. Skira avait le génie de l'invention. Il a découvert qu'on pouvait insérer, il a exploité la ressource du dit dépliant à l'intérieur du livre. Et il avait le sens de l'architecture de la page et de ce qu'il appelait le film du livre. Oui. Alors il fallait que la succession des illustrations soit conduite dans un rythme satisfaisant, varié, agréable, qu'il n'y ait pas de redites. Il a fallu faire des choix en fonction de l'objet qu'allait être le livre.
Je crois que c'est ce qu'on appelle techniquement le chemin de fer.
J'ai vu
chez Henri Cartier-Bresson, par exemple, des images étalées par terre pour justement trouver ce rythme dont vous parlez. Mais alors, dans les images passionnantes et très variées qui sont dans les livres auxquels je faisais allusion, il y en a qui ont un rôle majeur. qui condense, résume beaucoup de choses. Je pense au serment des Horaces, évidemment, dans les emblèmes de la raison, ou au fameux tableau de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Bon, je pourrais citer d'autres exemples encore. Et dans tous ces tableaux, est-ce que ce qui ne vous attire pas, c'est au fond le côté théâtral, c'est-à-dire la dramaturgie qu'il y a dans la scène qui est peinte? J'emploie le mot dramaturgie à dessein parce que je me souviens que vous l'employez vous-même à propos d'Œdipe aussi.
Ce n'est pas seulement
l'énigme qui vous intéresse là, mais la dramaturgie.
Oui, le peintre est très souvent, par rapport au mythe, ce qu'est l'auteur dramatique, par rapport à ces mêmes mythes, Corneille ou Racine. Quelquefois, le peintre met en scène une pièce. Je pense que le Brutus de David doit quelque chose au Brutus de Voltaire, à moins qu'il ne s'agisse du Brutus d'Alfieri. Donc il y a une inspiration des peintres par les dramaturges, et le peintre quelquefois fait passer ses intentions dans les rapports très précis des personnages. J'étais évidemment, parlant de la peinture de David et de la peinture du XVIIIe siècle, très attentif à tout ce que Diderot a écrit sur la peinture et sur la pantomime. Et sur la pantomime, et sur les tableaux muets, sur des scènes de théâtre où tout à coup les acteurs s'immobilisent tous et constituent un moment que le spectateur doit considérer comme un tableau vivant.
Oui, vous parlez de tableau vivant et d'immobilité. Il me semble que, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas écrit sur le cinéma, ou très peu.
Très peu, finalement. Pas.
Ça pourrait venir.
Oui. Je ne sais pas, il y a des films que j'admire beaucoup. Le visionnement d'un film, il faudrait pouvoir le faire en s'arrêtant comme on arrête la lecture. Je crois que les vidéos le permettent
maintenant, en effet.
Et je n'ai pas acquis cette technique. Quelque chose qui a aussi joué son rôle, où il y avait des contraintes et de grandes libertés, ça a été la mise en scène des images de l'exposition Largesse. Mais il y a eu quelques contraintes. J'ai un regret, c'est de n'avoir pas demandé je crois que je l'aurais obtenu.
Il faut rappeler que c'était au Musée du Louvre.
Au Musée du Louvre. Après tout, il n'était pas impossible d'avoir autre chose qu'un très très beau dessin d'Artaud, mais qui n'était là que parce qu'il était un beau dessin, et il n'avait pas de rapport direct avec le don. J'avais cité l'Héliogabale d'Artaud, et j'avais nommé Artaud à cause de son intérêt pour les largesses d'Héliogabale, mais il fallait quelque chose qui fût autre chose que des gravures ou des dessins de petit format. Mon repentir, c'est qu'on n'ait pas... que je n'ai pas demandé, c'est pas quelque chose qu'on ne m'a pas accordé, qu'on n'ait pas exposé la récolte de la manne de Poussin. Parce que c'est là que la largesse divine apparaît. On voit les Hébreux récoltant la manne. Ils ne se battent pas comme mon point de départ étant donc la bataille des manants qui se battent pour ce qu'on leur distribue. Les Hébreux ne se battent pas comme ces manants-là, mais ils récoltent ce que d'en haut, verticalement, Dieu leur a fait largesse.
Alors se pose alors une question, c'est est-ce que un tableau ou une image quelconque a d'autant plus de valeur qu'il ou elle permet le discours ?
Quand le discours est engagé, oui, parce qu'alors le tableau est une preuve supplémentaire. Il m'arrive de partir du tableau parce que je l'aime, parce qu'il y a quelque chose en lui qui me parle, mais lorsque j'évoque la dormeuse de Fuseli, eh bien, c'est une preuve supplémentaire d'un état de possession dont je voulais faire l'étude dans le livre « Trois fureurs ». Donc, voilà. Quelquefois, le tableau vient comme document et non pas comme véritable point de départ. Et voilà. Une fois qu'il est document, alors il existe pour lui-même et par lui-même.
Bien sûr. Et parfois, justement, c'est une question que je voulais vous poser, on ne discerne pas forcément dans vos livres ce qui est pur document ou ce qui est votre goût esthétique profond. Et alors, on pourrait en profiter là, à l'instant pour vous demander quels sont vos goûts en peinture, quels sont vos peintres préférés.
Les peintres qui célèbrent, je dirais en répétant ce mot, qui célèbrent le don de voir. Ouais. Bonnard, par exemple, ouais. Me procure le bonheur de... d'une scène simple. Je me rappelle être tombé dans une espèce de rêverie heureuse devant une table de déjeuner ou de petit déjeuner. Il n'y a plus personne, oui. Mais le pain est là, les tasses sont là, la vie simple est là avec sa vibration.
Donc la peinture serait moins liée à la mélancolie que la littérature ?
Il y a une voie de libération dans la peinture dont Bonnard, par exemple, parfois Matisse, nous indique le chemin. Il y a aussi des peintres de l'angoisse qui me sont très chers. Il y a une angoisse présente dans les très beaux Balthus qui emblématise à la relation au passé, à l'enfance, à un monde âpre de la montagne, à des rêves qui sont peut-être néfastes. Les rues de Balthus.
Oui, je pense aussi, pendant que vous parlez, aux illustrations pour les Hauts du Hurlevent.
Enfin, oui. Oui. Donc, les peintres de l'angoisse, que ce soit Géricault ou même certains de la Croix, et de la Croix répercutant le Tasse, quelquefois.
Est-ce qu'il faut que la peinture soit figurative, qu'elle représente quelque chose pour qu'elle vous intéresse ?
J'ai peu à peu pris... une espèce de goût pour des œuvres comme celle de Rothko qui ne représente rien. Et je crois que lorsque la couleur est éloquente à elle seule, toute représentation peut disparaître. Mais je reste très, très inquiet de la disparition d'un rapport à la terre de la peinture contemporaine. Cette terre dont nous avons tellement le souci n'est-elle décidément plus représentable ? N'y a-t-il plus de paysage ? Faut-il que la peinture, au lieu de représenter le compte courant, le contre-courant, s'inscrive au contraire dans un processus d'effacement de la terre? Je me pose beaucoup de questions.
Et moi aussi, je me demande si la photographie ne remplit pas ce rôle, mais d'une autre manière, naturellement.
Sans doute, et peut-être y aurait-il des compensations, mais la peinture du paysage, fût-ce d'un paysage souffrant, reste, je crois, un besoin pour moi.
Mais à propos de la peinture et du discours, c'est le nom de Diderot vient à l'esprit, et je ne voudrais pas terminer ces entretiens sans vous demander quand vous tiendrez une promesse qui, au fond, a été publique, c'est-à-dire d'écrire un Diderot. Vous pourriez me répondre que vous l'avez fait parce qu'il est disséminé de livre en livre, mais est-ce qu'il sera rassemblé un jour ?
Il sera rassemblé, oui. C'est un de mes projets, mais évidemment, il y en a deux ou trois. Les Fleurs secrètes ne deviendront pas un très gros livre. Diderot viendra après, mais il y a aussi quelques travaux sur... ce grand mythe qu'a été le rapport de l'éloquence à la liberté, qui a été un grand mythe qui a soutenu le culte de la rhétorique et la recherche de la parole éloquente au XVIIIe, au XIXe siècle. et j'ai déjà quelques textes écrits. Le grand problème maintenant pour moi est de donner une préséance à tel ou tel rassemblement qui sera nécessairement un développement d'un texte, de textes déjà jalonnant mon parcours.
Mais si je comprends bien dans tout ce que vous me dites là, nous n'aurons jamais le grand livre sur la mélancolie.
Celui-là
qui est annoncé
aussi,
depuis le début.
Depuis longtemps, celui-là aussi, d'une certaine façon, il s'est décomposé. Les trois fureurs sont un élément du livre sur la mélancolie. D'une certaine façon aussi, action et réaction sont la petite excursion que je voulais faire à partir de la notion de mélancolie réactionnelle. J'ai si bien examiné le mot réaction que cela m'a entraîné à 450 pages de livre où il n'est question de mélancolie que dans une très petite partie de l'ouvrage.
Mais est-ce que le sujet lui-même n'implique pas que on ne le traite pas ?
La mélancolie est inachevable. Burton a tout de même traité le sujet.
Oui, c'est vrai.
Une traduction française paraîtra prochainement.
Vous la préfacez ?
J'en serai le préfacier par un article paru dans Le Débat, mais quelque peu modifié. Mais ce sera une étape dans la connaissance du passé de la mélancolie en France. Je suis très heureux de savoir que ce livre, qui vient d'être traduit en espagnol aussi, apparaît dans sa dimension européenne.
Je peux vous demander pour finir si la mélancolie, c'est un objet d'étude ou une connaissance intime ?
Les deux. C'est le sujet de ma thèse de médecine. Histoire du traitement de la mélancolie. Je me suis arrêté à 1900 parce que Roland Kuhn, l'un des grands spécialistes de la thérapeutique, devait se charger de la suite, et mélancoliquement, sans doute, il ne l'a pas écrite. Donc c'est peut-être à moi de l'écrire, mais d'autre part, j'avais donné un cours au Collège de France sur histoire et poétique de la mélancolie. Je n'en avais extrait qu'une leçon sur Baudelaire, que j'avais intitulé « Trois lectures de Baudelaire », mais ce n'est qu'un chapitre. Il y en a beaucoup d'autres, et précisément ce cours qui est dans mes papiers doit passer de l'oral à l'écrit maintenant.
Et à propos de mélancolie, il y a un auteur qui est étonnamment absent, ou presque totalement absent dans vos écrits, c'est Nerval.
En effet, je n'ai jamais consacré un article entier à Nerval. Et cependant, il apparaît dans les études sur le regard des statues. Et sans doute reparaîtra-t-il avec beaucoup plus d'insistance dans le livre sur la mélancolie. C'est donc un complément qu'il faut apporter au texte déjà présenté et publié. Tous mes travaux, et ça a été le cas d'Action et Réaction, sont à la fois des reprises et des inventions nouvelles. Des éléments nouveaux complètent des éléments anciens. Et cette chronologie est quelquefois difficile à manœuvrer. Dans le cas de Nerval, c'est une dette. Sylvie est un texte admirable, Aurélia aussi, et Les Nuits de Vienne, enfin l'ensemble, je m'engloutis dans Nerval, dans Le Voyage en Orient, dans Les Nuits du Ramadan, c'est un continent.
Fin de cette rencontre de Gérard Massé avec Jean Starobinski, enregistrée en 1999. À voix nue. Réalisation Bruno Sourcy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.